Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 11. Levons-nous pour la lecture de la parole du Seigneur. Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité, en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau qui procure la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous voulons adorer. Jusqu'ici, cette parole merveilleuse. Dieu fidèle, nous te remercions de tout notre cœur pour ta grande grâce, pour ton amour, pour ta fidélité, que tu as prouvé à notre égard. Nous étions éloignés, oui, loin, éloignés de tout. Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, mais tu nous as agréés, tu nous as accueillis, tu nous as appelés, tu nous as choisis, tu nous as élus, tu as fait de nous ceux qui maintenant sont proches, nous qui étions éloignés. Et ce soir, nous sommes ici rassemblés devant ta sainte face. Tu t'es révélé d'une manière puissante, déjà en beaucoup de milliers de personnes. Tu as prouvé que tu es le Dieu fidèle, le Dieu vivant. Nous te remercions de la promesse de notre cœur ce soir et nous t'adorons, Seigneur, et te demandons nouvellement que tu puisses venir parmi nous encore ce matin. Tu connais toutes les requêtes, tu connais toutes les difficultés parmi ceux qui se sont remis à nos requêtes. Seigneur, tu es le grand médecin. Et c'est encore la grâce là. La grâce est encore là. Nous pouvons encore venir à toi avec tout, Seigneur. Avec tous nos frères et nos sœurs. Avec tous ceux qui sont tombés dans des difficultés. Seigneur, accorde ta grâce, nous te le demandons. Je te demande aussi, à ce moment bien précis, que tu puisses secourir, que tu puisses guérir, que tu puisses aider tous ceux qui sont dans la difficulté pour que ton nom soit glorifié. Pas pour notre honneur, mais que cela ait lieu pour l'honneur de ton nom. Oh Seigneur Jésus, nous t'adorons et nous te remercions de la plénitude de notre cœur, de ce que tu nous as élus pour t'appartenir, Tu as fait de nous les gens de ta maison qui t'appartiennent, pas pour ce temps seulement, mais pour toute l'éternité. Adoration te soit apportée à ton merveilleux nom. Bénis avec nous tout ton peuple dans son entièreté, partout dans tous les pays, dans tous les peuples et les tribus, nous avons entendu, partout tu as ton peuple, aussi dans les pays arabes, partout Seigneur, mais aussi particulièrement ton peuple Israël, Seigneur, nous te remettons tout et te demandons de bénir tous de la plénitude de ta grâce. Nous t'adorons dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'espère que nous estimons la parole de Dieu dans sa pureté, dans sa clarté, dans toute sa vue d'ensemble et sa plénitude, telle que ça n'a pas existé auparavant. Nous avons la grâce de la croire ainsi, de l'écouter ainsi, d'avoir part à cela ainsi. Alors que j'étais assis là, je pensais à ce que, comme c'est facile, simple dans certains pays, que des hommes peuvent croire plus enfant, ont une foi plus enfantine que cela nous a été accordé à nous. Plus enfantine. J'ai brièvement évalué ce que Dieu a fait en beaucoup qui sont venus dans la foi pour qui il a été prié et Dieu a répondu instantanément, a pu répondre au moment même. Pourquoi? Parce que ces hommes-là avaient une foi d'enfant qu'ils ont apporté avec eux, qui n'est pas dépendante des circonstances, mais qui est ancrée dans les promesses de la parole de Dieu, qui est fondée dans les promesses de la parole de Dieu, qui était fondée. Je vous l'ai raconté ici. C'est justement une très grande différence. Est-ce que des gens sont déjà spirituellement rassasiés, n'ont plus de faim, de soif, en comparaison aux pays qui auparavant n'ont encore rien entendu, qui n'avaient jamais eu l'occasion d'écouter de cette manière la parole de Dieu prêchée. Et je vous ai aussi dit concernant cette visite à Cairo, au Caire, alors que cet homme, n'est-ce pas, qui me montrait les pyramides, qui me faisait visiter les pyramides, avec qui je suis monté 77 marches, et arrivé en haut, là-bas, il me dit comme descendu, subitement, est-ce que tu pourrais prier pour moi? 77 marches à pied, jusqu'en haut. Et jusqu'alors, j'avais seulement que mon appareil photo sur moi, j'avais pas de Bible, j'avais pas un visage pieux, j'avais rien. J'étais en sueur, mouillé en sueur. J'étais arrivé en haut en sueur, complètement mouillé. Et justement, arrivé en haut, cet homme qui a plus de 70 ans, de 70 ans, il me dit, est-ce que tu pourrais prier pour moi ici? Et vous pouvez bien vous imaginer que j'ai imposé mes mains à ce grand-père et il me disait, moi, musulman, il voulait dire par là, je suis un musulman. J'appartiens à l'islam. Et je lui ai dit, musulman ou pas musulman, ici nous adressons à Dieu dans la prière, nous prions, nous parlons à Dieu. Et alors je l'ai serré dans mes bras et j'ai prié pour lui. Et en temps, d'autres se sont ajoutés quatre Prussiens qui venaient de Munich. Et cet homme me disait, mais je vous connais de quelque part, je ne sais pas d'où. Alors je lui ai dit, mais d'où? Et il a dit rapidement alors. Il avait écouté les émissions de radio et il m'a reconnu à ma voix, Alors que j'étais en train de prier pour la personne, il m'a reconnu par la voix. Et il est venu à moi et m'a dit, mais croyez-vous que là où vous teniez, il y a des vibrations spéciales qui peuvent être actionnées. Je ne sais même pas ce qu'il voulait. Je dis, mais ça, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais. Si nous nous tenons là et prions ensemble, alors nous allons entrer en vibration. Donc venez tous, et les quatre, et moi, nous nous sommes tenus les mains et nous avons prié ensemble là-bas. Ici, on peut faire des choses et rien ne se passe. Et dès qu'on met un pied dans d'autres pays, c'est presque à chaque instant que quelque chose se passe et que Dieu bénit, que Dieu le Seigneur conduit des personnes qui écoutent sa parole et qui entendent ce que Dieu a à leur dire. Et c'est peut-être raison que c'est aussi comme ça que les portes, comme pour dire, jusqu'aux extrémités de la terre, nous ont été ouvertes. Alors que ce frère-là, au Caire, me disait, tu dois rester ici 4 semaines. Je ne savais pas que plus de 14 millions de chrétiens habitent en Égypte. Mais parmi ceux-là, parmi ces églises vivantes et bibliques qui attendaient à ce que la parole du Seigneur leur soit prêchée. J'ai reçu mon visa pour la Syrie. Je dois déjà hier soir dire, déjà depuis hier, je disais, tous ces prédicateurs, dans le futur proche, tous ces prédicateurs qui sont dans des camps et qui n'ont même pas leur pain quotidien, je veux leur apporter la parole de Dieu. Car ils ont été conduits en erreur. Ils ont été excités, entraînés. Et vous savez qu'il y a des gens dans ces pays-là qui sont fanatiques. À tel point qu'ils risquent eux-mêmes leur vie. S'ils peuvent mettre une bombe quelque part, et même s'ils se font sauter avec cela, avec elle, cela leur est indifférent. Ce qui est important pour eux, c'est qu'ils terrorisent, c'est de terroriser. Mais il y a quelqu'un qui est derrière eux, qui se passe derrière eux. Cet homme qui monte un camion poids lourd et qui fonce dans un bâtiment en pleine vitesse et qui cause et produit une grande explosion. Ils ne le veulent même pas. Il leur a été dit, si pour la cause juste de Dieu. C'est ce qu'on leur dit. C'est ce qu'on leur dit. Si pour la cause juste de Dieu, vous sacrifiez votre vie dans la sainte guerre et que vous devriez mourir par cela, vous avez une place particulière au ciel. Et qui ne veut pas avoir une place particulière au ciel? Oui. Ça, ils le veulent tous, n'est-ce pas? Et la chose est faite et les roues sont déjà en train de rouler et puis se mettre en chemin pour aller faire ça. Mais nous, nous considérons ce qui se passe et nous observons cela de manière biblique et nous voyons comment est-ce que les esprits se sont levés desquels frère Branham parle. Et vous savez à quoi est-ce que je devais penser ces jours derniers? Dans le 5e psaume, vous pouvez le lire, que frère Branham a parlé de ces 2 millions de cavaliers, je crois que le nombre est à peu près ainsi dans Apocalypse, qui sont retenus au fleuve l'Euphrate, qui ont été retenus au fleuve l'Euphrate pour le jour et l'heure, et qu'ils ont été lâchés pendant le temps de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'ils ont causé la mort de tous ces Juifs qui ont été tués. Mais si nous observons la chose de près, il y a une question qui reste ouverte. Si ces esprits ont été relâchés, ont été lâchés. Et que ils ont causé ces meurtres graves. Est-ce que depuis lors, ils ont été de nouveau liés? Est-ce que après qu'ils aient été relâchés, enfin lâchés, est-ce que quelqu'un les a mis en prison? Ou bien alors, est-ce qu'ils sont encore libres? Les gens ont été mis à mort, les hommes ont été tués dans des fosses communes mises, dans des fosses communes, ou bien alors il y a de la cendre qui est restée. Mais ces esprits-là, des esprits de destruction, de meurtre, ont été lâchés. Et ils sont aujourd'hui encore libres. Et comme autrefois, la chose contre les Juifs, la chose s'était tournée contre les Juifs. C'est comme ça qu'aujourd'hui, la chose se tourne vers deux choses, contre les Juifs, mais aussi contre l'Église, contre l'épouse de l'agneau. Ces esprits se tournent aussi contre l'épouse de l'agneau, contre les élus. Et vous pouvez le lire dans Apocalypse, le chapitre 12. Et le dragon se tint devant la femme pour dévorer son enfant, le fils mâle. Pas la femme qu'il a enfanté, mais ce qui est sorti en étant enfanté par l'Église. La troupe des vainqueurs qui sera enlevée à Dieu et son trône. C'est sur eux, les élus, sur elle, la troupe des vainqueurs, que l'ennemi tourne ses regards. Et nous devons attendre à ce que les attaques ne soient pas dirigées contre qui que ce soit, contre quelqu'un de quelconque, mais contre ceux à qui Satan a la plus grande colère. Et ça, ce sont ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau immolé avant même la fondation du monde, qui sont écrits. Qu'est-ce que Satan a à faire avec tous les hommes de Dieu à qui la parole du Seigneur était venue? Ils ont été persécutés, lapidés, tués, jusqu'à le sang de Zacharie qui a été tué entre le temple et l'autel. Et notre Seigneur dit dans Matthieu 23, verset 35, « Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. » Qu'est-ce que c'était? Les hommes de Dieu avaient la parole du Seigneur qu'ils portaient. Et hier soir, je l'ai déjà mentionné, c'est une chaîne de réactions. Les hommes de Dieu recevaient la parole du Seigneur. Les hommes de Dieu l'ont écrite. Les hommes de Dieu l'ont annoncée. Et le peuple de Dieu l'a acceptée, l'a reçue. Et la recevra et l'acceptera jusqu'à la fin. Mais l'ennemi aura sa colère contre eux tous, contre ceux qui, en tant que prophètes, n'est-ce pas, sont passés sur cette terre et ont reçu la parole. En ceux qui s'asseyaient et qui devaient écrire en raison de l'inspiration du Saint-Esprit. En ceux qui, dans leur temps, prirent cette Bible entre leurs mains et instruisaient le peuple de Dieu. Et là, je l'ai constaté aujourd'hui déjà, ou bien alors déjà hier soir, il y a une parole que j'ai constatée que dans l'évangile de Luc, cette parole dans l'évangile de Luc est un peu formulée autrement que, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3. Ici, la chose suivante est écrite à partir du verset 2. Luc, chapitre 3, verset 2. « Et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressé à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Restons un peu ici un moment. Les autres évangiles disent, un homme de Dieu a apparu, son nom était Jean. Mais ici, il est dit d'une manière très particulière et d'une manière spéciale. Il est fait mention d'une manière spéciale que la parole du Seigneur lui fut adressée. Et que ce n'était pas lui qui avait déterminé le jour et l'heure. Mais il attendait jusqu'à que la parole du Seigneur lui soit adressée. Et c'est ensuite qu'il a commencé son ministère. Pas plus tôt et pas plus tard. Mais quand le temps voulu par Dieu pour cela fut arrivé, Dieu a un ordre. Il a un plan. Et c'est d'après ce plan que tout doit se dérouler. Et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Au verset 3, il est écrit, « Et il allait donc dans tout le pays, des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Faites vallée, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tordu sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair, en allemand, toute l'humanité verra le salut de Dieu, toute chair. Ça, c'est une parole très merveilleuse. Les deux sont d'une grande importance. D'abord, que cet homme de Dieu devait attendre le temps de Dieu, que Dieu lui dise, lui parle. Et la deuxième chose, c'est qu'avec droit, il pouvait donc se référer à la parole du prophète Ésaïe. Car cette parole s'adresse, se référait à lui, pas à n'importe qui, ou bien à quiconque, ou bien à tous. Combien en temps avait apparu un qui même avait rassemblé 400 personnes à sa suite. Il est cité même de son nom. Mais ici, c'était l'histoire du salut. Ici, c'était un mandat divin, un ordre divin. Ici, il y avait une référence à la parole de Dieu que Dieu avait déjà par le prophète Ésaïe prononcée. Et quand, dans ce temps, nous regardons, alors nous n'avons pas seulement un homme, nous n'avons pas seulement connu un homme de Dieu, un homme de Dieu, un homme envoyé de Dieu, un prophète qui aurait apparu. Seulement, mais un homme à qui la parole de Dieu a été adressée, est venue, à qui il lui a été dit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Et ce qui est merveilleux, c'est que cet homme de Dieu a allait à l'Ancien et au Nouveau Testament et nous montre, et pouvait nous montrer les versets bibliques qui se référaient à son ministère. Et ça, c'est pour tous ceux qui sont fondés bibliquement d'une grande signification et importance. Si quelqu'un de quelconque comme ça apparaîtrait et que cela se serait passé et que les plus grands miracles et signes produits se passeraient, alors nous n'avons pas encore le droit de suivre cela, d'aller dans ces choses, si ce n'est que la chose soit fondée bibliquement et par la parole de Dieu elle-même légitimée et en tant et trouvée en tant que juste et venant de Dieu. C'est seulement quand cela a lieu que nous avons le droit de croire. Et c'est à partir de cela que nous pouvons aussi nous référer à cela et à nous référer à servir le Seigneur. S'il s'agissait seulement de miracles, de prodiges, sans une référence biblique, un fondement biblique, dans cette génération, peut-être qu'il y a déjà eu des millions qui, n'est-ce pas, ont suivi et qui suivent encore les signes, les prodiges et les miracles. Chaque évangéliste qui vient est capable, n'est-ce pas, de faire des prodiges et des miracles, ou bien de montrer des prodiges et des miracles. Et vous savez, ce qui se passe à la fin de tous ces prodiges et des miracles, ce qui restera après ces miracles et ces prodiges, s'ils n'ont pas de légitimation biblique et de justification par la parole de Dieu pour ce qu'ils font. Et ça, je peux vous dire sans me l'imaginer et sans en faire une énigme. Tout cela, en ce jour, s'étonneront. Est-ce que tous les mots, les miracles et les prodiges, ils vont s'étonner parce que la chose était, oui, la chose était creuse et vide. Des discours vains, des promesses vaines qui ne sont pas liés à un ordre divin reçu, à un mandat divin reçu, à un envoi divin. Les signes, les prodiges et les miracles sont dépendants de ce qui écoute la parole de Dieu. Chaque homme qui écoute la parole et qui croit peut expérimenter des miracles et des prodiges et voir, parce qu'il croit la parole de Dieu. Pour nous, il s'agit de toute la justification de la parole de Dieu et la légitimation de la parole de Dieu. Des signes et des prodiges, oui. Le salut et la guérison, oui. La délivrance, le baptême du Saint-Esprit et de feu, dans tout ce que Dieu a promis, à cela, nous disons tous oui. Mais ces choses n'ont pas le droit d'être détachées de la parole de Dieu. Celui qui se détache de la parole de Dieu, il se détache de Dieu. Car il se sépare de Dieu, car Dieu est lié et est dans sa parole. Au commencement était la parole, et la parole à la fin sera aussi. Nous ne sommes pas ici pour porter un jugement, mais avec des yeux fermés, on ne devrait pas non plus, n'est-ce pas, passer par ce monde, les yeux fermés. Nous avons en partie vécu que des hommes priaient pour les malades et que ces malades croyaient et qu'ils furent guéris. Dieu a réellement fait des miracles et des prodiges. Pensons à ce grand exemple de la sœur du frère Himmel Shikarius. Et j'aime cet homme spécialement parce que frère Branham, le 3 décembre 1962, me disait: rends une visite à cet homme, Demes Shikarian. Et vous savez, jusqu'à cette date, je ne connaissais ni son nom et j'avais ni son adresse. Et cet homme m'a reçu comme un messager de Dieu. Et vous savez, alors que tous les autres ont prophétisé, fille de Sion, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et ton témoignage servira à l'honneur de Dieu. Là, le frère Branham devait dire, moi, je ne peux que dire ce que Dieu m'a montré. Et j'ai regardé l'heure, et il était 13h45 que Frère Branham avait vu le jour et l'heure à laquelle elle décéderait. Ce grand prophète aurait été plus accepté s'il avait dit, fille de Sion, tu vivras et tu seras un grand témoignage. Non, mais il n'avait pas le droit de parler de lui-même. Il n'avait pas le dire. Les prophètes de Dieu, les hommes de Dieu et les enfants de Dieu n'ont pas le dire, n'ont aucun droit de parler. Ils doivent se soumettre à la décision de Dieu et se soumettre à la volonté de Dieu sans murmurer. Ils n'ont pas le dire. Et ensuite vint ce jour et elle a décédé. Et donc, tout ce qu'avait dit qu'elle allait vivre et qu'elle allait être guérie et dans l'enthousiasme ont prophétisé, s'ils étaient entrés en eux-mêmes et si c'était répandu, non, ils sont passés au-dessus de tout cela comme si rien ne se serait passé. Comme si rien ne serait passé. Alors qu'ils avaient prophétisé qu'elle serait guérie et qu'elle vivra pour l'honneur de Dieu. Un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, peut que dire ce que le Seigneur lui avait dit. Et cela nous rappelle en Michée dans l'Ancien Testament. Alors que les hommes vinrent et sont allés le chercher pour que lui aussi il puisse aux deux rois d'Israël et de Juda, Josaphat et Akab, qui puissent leur prophétiser. Et ils lui ont dit, joins-toi à ce que tous les autres ont dit. Et ensuite, de la profondeur de son cœur, il a dit, aussi vrai que Dieu vit, je dirai seulement ce que mon Seigneur me révélera. C'est ce que je dirai. Et là, nous avons un homme qui devait se joindre et accepter de se joindre à eux. Et voilà, il a dû porter l'opprobre et la honte. Il a refusé de se joindre à eux et il est resté avec la parole de Dieu. Et je vous dis, cela servira et sera récompensé de dire seulement ce que Dieu a dit et de ne pas se sentir obligé de se joindre à ce que d'autres ont dit. Et même si en temps, nous sommes à cause de ça mis en prison, comme c'était avec Michée. Et Akab, n'est-ce pas, lui a encore dit, si je reviens, alors je vais m'occuper de toi. Il savait, n'est-ce pas, comment est-ce que le mot s'occuper de toi, il savait ce que ça voulait dire. Et cet homme de Dieu avait encore le courage et a dit à Akab, comme dernière chose au roi, si tu reviens, alors ce n'est pas le Seigneur qui a parlé par ma bouche. Ça serait pu lui coûter la vie, serait pu lui coûter la vie. Mais est-ce qu'il avait le choix? Est-ce qu'il pouvait se taire alors que Dieu voulait parler? Il devait parler parce que Dieu avait parlé. Tous les prophètes, si ils avaient réfléchi humainement, ils auraient pu avoir une vie merveilleuse sur terre. Mais qu'est-ce que Hébreux 11 nous dit? Ils sont allés ici et là, persécutés, maltraités, eux dans le monde n'étaient pas dignes. Ils portaient la parole précieuse de Dieu. Laissez-moi vous dire cela. Pas seulement eux, mais aussi tous ceux qui écoutent la parole de Dieu vont avoir la même disposition de cœur et par conviction confessée. Seulement ce que le Seigneur a dit, c'est ce que j'annoncerai. Si en cette citation, les hommes dans ce temps pourraient rester attachés à cela, à cette déclaration, à cette phrase, alors tout ce désordre-là, en un seul coup, à un seul moment, cesserait de dire seulement ce que Dieu a dit. Si tous pouvaient seulement s'attacher à cette phrase, à rester attachés à ce qui est écrit dans la Bible et à ce qui a été annoncé par le ministère du prophète que Dieu a envoyé, alors tout serait en ordre et il n'y aurait pas de problème. Il y aurait une harmonie céleste merveilleuse. Mais on sort à l'extérieur du contenu des Saintes Écritures. On sort de l'intérieur des Saintes Écritures. Et quand je pense à ce que déjà tout a été, à tout ce qui a été dit sur les sept tonnerres, quelles interprétations ont été apportées avec les promesses, même que seulement celui qui accepte cette révélation des sept tonnerres pourra être enlevé. Et cela, n'est-ce pas, se fait bien entendre. Hein? Mais ravit les gens sous une pression, sous une citation et une situation dans laquelle ils n'ont pas leur place d'être. Celui, qui sommes-nous de vouloir défendre le ciel et d'oser dire seulement celui qui croit ce que nous prêchons, celui qui accepte ce que nous prêchons sera au ciel. Est-ce que ça, ce n'est pas l'esprit de l'Église romaine catholique qui prétend être la seule à avoir le salut en elle et capable de sauver? Avec quel esprit avons-nous à voir? Des gens qui disent la même chose. Nous devons faire la différence des choses et discerner ces choses et avec toute la conséquence, nous tenir du côté de Dieu. Et celui qui vraiment se tient du côté de Dieu, il ne se tient pas dans une pièce vide et non plus sur un sol en sable, mais il se tient sur le sol solide de la parole de Dieu révélée pour ce temps. Et ça, il faut que cela soit clair et nous soit accordé de Dieu à tous. Dans les deux prédications sur la semence originale, l'avons entendu, la semence originelle, l'avons entendu qu'on n'a pas le droit de permettre le mélange et qu'aucun mélange doit avoir lieu. Et ça, je le crois de tout mon cœur. La parole paraît de la semence originelle. Mais cette parole et cette déclaration se réfèrent seulement à ceux qui sont déterminés à Dieu pour ça. Tous les autres vont continuer à mélanger. Mais ceux qui appartiennent à l'Église, épousent et qui aiment l'époux et sa parole, ne mélangeront plus les choses. Mais ce sera parole de Dieu pour parole de Dieu qui vont bâtir l'une sur l'autre. Et eux-mêmes, ils seront ainsi édifiés pour devenir une maison de Dieu en esprit et ainsi apporter des sacrifices agréables, des sacrifices vivants, et pour pouvoir apporter des sacrifices vivants à Dieu. Le mélange aura lieu parmi ceux, et je m'excuse, c'est pas moi qui l'ai prononcé auparavant et j'ai jamais aussi pensé à cela. mais tous ceux qui eux-mêmes sont des, sont un mélange, sont une mixture et qui veulent le rester, ils vont continuer à mélanger. Tous ceux qui sont nés réellement de la pure semence, qui sont nés de nouveau de la pure semence incorruptible de la parole de Dieu pure, tel que nous avons entendu dans la parole d'introduction, que nous ne sommes plus des étrangers et des qui sont éloignés, qui ont le droit d'être quelque part comme ça. Non, mais nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous appartenons à la maison de notre Dieu. Nous sommes les gens de sa maison. Et celui qui est lui-même un mélange va continuer à mélanger. Et où est-ce que le premier mélange a eu lieu? Alors que on a commencé à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand est-ce que cela a eu lieu? Et sous quelle inspiration? Cela a eu lieu dans le jardin d'Éden, sous l'inspiration très pieuse. Le serpent n'a jamais parlé du diable, hein, mais de Dieu. Est-ce que Dieu aurait dit et il sait que vous deviendrez intelligent et que vos yeux s'ouvriront? C'est là que le mélange a eu lieu. Frère Branham voulait tenir une prédication sur le sentier du serpent du jardin d'Éden jusqu'à la fin où Christ réglera le compte de l'Antichrist. Et nous voyons le sentier du serpent. Comment est-ce qu'il prend la parole de Dieu? Le serpent, il a la parole de Dieu dans sa bouche avec des discours pieux et il ajoute son propre poison et produit toujours de l'inimitié et détruit par ses discours pieux les gens dans leur intérieur. Et là, nous savons que là où Dieu est, là où Christ peut se révéler, l'inimitié est ôtée. Je vous pose la question, qui est qui? Est-ce moi qui ai ou suis-je haï? Est-ce que je persécute ou bien suis-je persécuté? Est-ce que je calomnie ou bien je suis calomnié? Ou bien je suis persécuté? Vous pouvez continuer ce catalogue à votre gré. On doit faire la différence, pouvoir faire la différence une fois. Et c'est au fruit qu'on le reconnaîtra. C'est par le fruit qu'on reconnaît l'arbre. Ou bien quelle sorte d'arbre c'est? C'est par le fruit qu'on peut le reconnaître. Pas là où on a des discours pieux, où on peut parler des mystères et faire de ces mystères plein de mystères. Mais là où la parole de Dieu est clairement apportée avec pureté, sans interprétation, elle est prêchée dans sa forme originelle et que les hommes intérieurement sont conduits vraiment à Dieu et à venir à une relation personnelle avec Dieu sous l'écoute de sa sainte et précieuse parole. On pourrait demander ce qui se passe partout. Mais cela n'est pas notre devoir. Notre devoir, c'est de transmettre la parole de Dieu, du Seigneur reçue, qui a fait, s'est donné l'effort de traduire les prédications de Frère Branham dans d'autres langues, en tant que message de Dieu. Et de porter la responsabilité pour cela. Demandez à l'un de ses frères là, à un seul, à l'un de ses frères qui quelque part là se laisse fêter et se laisse glorifier. Qu'est-ce qu'il a fait pour que le message envoyé par Dieu soit apporté dans tous les peuples et dans le monde entier? Et si ensuite vous calculez et vous verrez que c'est 0 plus 0 égale 0, 0 plus 0 égale 0 et 0 plus 0 égale 0. Rien, il n'y a aucun résultat. Et ce n'est pas une critique. C'est une constatation véritable dans ce temps. C'est facile de rendre à l'autre impossible et d'en vouloir à quelqu'un. Mais qui a sacrifié son temps et sa vie? Et cela dans toutes les différentes circonstances difficiles pour aller jusqu'aux extrémités de la terre pour porter le précieux message divin. Et concernant ces choses, je peux aujourd'hui louer et exalter devant le Dieu Tout-Puissant. Je peux témoigner que du message de Dieu, je n'ai pas fait mon propre message. Je n'ai pas fait mon propre message. Mais j'ai eu assez de crainte et de respect devant Dieu pour laisser le message divin tel qu'il nous a été transmis. Et c'est ainsi qu'il a été aussi transmis aux autres dans cette même forme. Vous pouvez vous-même réfléchir à cela. Est-ce que je dois vous amener à penser de ça? Penser sur ça? Ici, un homme de Dieu, la parole de Dieu est venue à lui et il a apparu. Il n'a pas apparu avant. Il a attendu que la parole de Dieu s'adresse à lui avant d'aller. Et nous savons que Jean-Baptiste était rempli de cet esprit déjà depuis dans le ventre de sa mère. Déjà. Et il savait dans son cœur qu'il avait un mandat divin. Et il devait ensuite attendre 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais il l'a attendu, pas en vain. Quand le temps fut accompli, alors la parole de Dieu s'est adressée à lui. Il n'a rien entrepris auparavant, alors qu'il était rempli de cet esprit. Un homme de Dieu a apparu avec un message divin qui conduisait directement à revenir aux Saintes Écritures. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? On prend des citations, on utilise des déclarations et on veut les accoupler ensemble alors qu'elles ne sont même pas. Elles ont été exprimées dans différents temps et dans des choses qui ne sont dites pas dans le même contexte, mais malgré tout, on essaye de les mettre ensemble et on perd. On ne trouve pas on ne trouve plus le chemin qui revient aux Saintes Écritures. Et alors, on dit cette phrase bien couverte de piété. Personne n'a compris les Saintes Écritures. Oh, cela s'entend bien, n'est-ce pas? Hein? Et si c'était vrai, alors cela n'est plus vrai aujourd'hui. Si jusqu'à ce temps-là, personne n'avait compris les Saintes Écritures. Alors, c'était justement le devoir du ministère prophétique de nous ramener dans les Saintes Écritures pour que nous puissions comprendre les Saintes Écritures. C'est justement ce qui s'est passé. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait après sa résurrection? Est-ce qu'il a raconté des histoires aux disciples? Non. Il l'a commencé avec Moïse et avec tous les prophètes. Et il leur a dit tout ce qui était écrit faisant référence à lui. Nous croyons que les prophètes de Dieu sont des paroles, des prophètes paroles, des hommes de Dieu à qui la parole de Dieu est venue. Ils sont liés à la parole de Dieu et trouvent en elle leur liberté divine. Quiconque se détache de la parole de Dieu, comme je disais tout à l'heure, il se détache de Dieu. Et avec cela, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas tout. Chacun qui se détache de la parole de Dieu, se détache, tombe sous une inspiration étrangère et une inspiration étrangère, une influence étrangère, car l'inspiration du Saint-Esprit est toujours liée et reste liée dans la parole de Dieu. Celui qui quitte la parole de Dieu tombe sous une autre inspiration et elle est étrangère aux Écritures. Et alors, l'inimitié vient, les divisions viennent, les animosités et toutes sortes de choses. Et malgré tout, les choses sont avec des discours pieux, enveloppés, comme aucun de nous pourrait parler ainsi. Mais la raison de cette inimitié, c'est parce qu'on s'est détaché des Écritures. Mais Dieu, lui, il discerne toutes ces choses. Il sait et il connaît les tiens, les siens. Et les siens sont déterminés à être une épouse parole. Et ceux, là, peut-être qu'ils ne me croient, ils ne me croient pas. Mais je ne peux pas non plus les obliger de le faire. Et ils ne croient pas ces choses. Mais le jour du jugement, cela sera vrai. Ce que, à Marseille, j'ai vécu là-bas. Et je regardais à l'heure, à la montre. Il était 5h05 le matin. Après deux appels, le Seigneur m'a réveillé. Et il m'a ordonné de lire 2 Timothée 4. Et ça, c'était le jour. Où j'ai levé mes deux mains devant la Bible et devant Dieu. Et j'ai dit, seulement ce qui, en tant que parole de Dieu, a été écrit dans ce livre, peut être prêché. Ce qui n'est pas écrit dans ce livre n'est pas une partie de la parole écrite de Dieu. Et cela ne sera jamais prêché. Mais ça accomplira quand le temps sera venu pour ça. Et c'est ainsi que ce sera. Aujourd'hui, des centaines de personnes peuvent venir et vous dire des centaines de personnes, de choses, pardon, sur la voie de cette tonnerre. Et si moi, je vous lis de ce livre, de cette Bible, que seulement ceux qui peuvent lire cela, c'est écrit dans Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Écrites, qui y sont écrites. Jésus-Christ disait toujours de nouveau, il est écrit. Mais si Jean du ciel entend cette voix, n'écrit pas, et que il n'a pas écrit, est-ce que moi, je devrais laisser libre mes fantaisies? Que cela soit loin de nous. Aussi certain que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, c'est aussi certain aussi que complètement à la fin. Il fera ce qu'il s'est proposé de faire sans que il soit prêché là-dessus. Et frère Branham disait, personne sait, même le Seigneur Jésus autrefois n'a pas révélé ce mystère. Nous avons souvent entendu, la parole vient au prophète. Et personne d'eux, tous ont prétendu être un prophète. Aucun d'eux. Mais tous disaient que la parole était venue à eux. Ils n'ont pas dit la parole de Dieu ou bien l'inspiration du Saint-Esprit. Ça n'a pas été formulé comme ça. Dieu est lié à sa propre parole. Et nous tous, nous avons à nous soumettre à cette parole et à nous soumettre et pour pouvoir revenir à l'ordre divin. Chacun veut trouver grâce devant Dieu, mais pour cela, il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin a été frayé. Qu'est-ce que Jean devait faire? Qu'est-ce qui devait se passer par le ministère de Frère Branham? Il est écrit ici, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Luc 3, verset 4, préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Pas pour nous, aplanissez lui ses sentiers en allemand. Pas pour moi et ou bien pour toi, ou bien pour nous. Mais le ministère de la parole a lieu pour le Seigneur et pour son peuple, pour que le Sauveur et les rachetés ensemble se tiennent sur le même sol, dans la même parole, et il est la parole. C'est peut-être raison que tout devait être aplani. Toute vallée sera comblée et toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tordu, verset 5, sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Ça, c'était en relation avec le mandat de Dieu, avec l'ordre de Dieu. Cela avait été dit en relation avec l'ordre de Dieu. Il n'est pas dit de tordre ce qui est droit. Et ce qui est aplani doit être rendu raboteux, comme cela se passe partout. Mais nous croyons que Dieu a envoyé un message prophétique pour redresser ce qui est tordu et pour aplanir les chemins raboteux et pour que les collines soient abaissées et toute vallée soit comblée pour frayer un chemin à l'Éternel pour lui conduire, pour conduire à lui un peuple bien disposé, c'est-à-dire prêt. Et cela doit avoir lieu par la prédication, par l'annonce de la parole de Dieu. Ce qui est tordu doit être redressé. Et ce qui est raboteux sera aplani. Maintenant, très réellement, sans critiquer, nous nous posons la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a été fait avec toutes ces choses qui étaient déterminées à être aplanies, abaissées, redressées, comblées pour nous ramener à l'évangile primitif de Jésus-Christ, originel de Jésus-Christ? Beaucoup de choses qui sont prêchées aujourd'hui n'ont rien à voir, rien de semblable avec l'évangile originel de Jésus-Christ. Plus rien de semblable, plus rien à faire. C'est peut-être raison que c'est d'une grande importance. Simplement, de saisir ce que Dieu avait comme intention de comprendre et ce qu'il est en train d'exécuter, c'est-à-dire d'aplanir, de combler, d'abaisser, de redresser, d'aplanir, de rétablir, de restituer, de restaurer, pour que nous soyons fondés fermement dans cette parole. Lui, l'époux, est la parole devenue chair et la parole des promesses divines pour ce temps doit dans l'épouse qui est encore ici dans un corps de chair. La parole de la promesse doit venir une réalité dans l'épouse et trouver sa confirmation par la grâce de Dieu, être confirmé par la grâce de Dieu. Jean pouvait attendre 30 ans. Pourquoi est-ce que nous aussi, nous ne pouvons pas attendre? Il est écrit, n'est-ce pas, que nous avons besoin de patience pour que nous puissions, après avoir accompli la volonté de Dieu, obtenir ce qu'il a promis. La parole de Dieu s'est adressée à Jean. Et nous pouvons, sans avoir honte, dire la parole de Dieu s'est adressée à Frère Branham, est venue à Frère Branham, telle qu'elle est venue à Jean. Et Dieu, d'une manière puissante, l'a utilisée à ramener l'Église, c'est-à-dire à l'état originel qui existait au commencement, primitif. Et maintenant arrive, ça je voulais le dire pour finir. Celui qui ne prend pas au sérieux les vérités révélées de la parole de Dieu et ne les croit pas de tout son cœur et ne les laisse pas dans leur contexte biblique doit s'étonner, ne doit pas s'étonner de recevoir une puissance d'égarement. Pour croire aux mensonges, à des choses qui n'ont pas leur origine dans les Écritures, qui ne sont même pas écrites. Ce que je vais dire, peut-être que vous pourrez même rire là-dessus, mais en Afrique du Sud, les gens ne rient pas sur ce que je vais dire. Il y a une semaine d'ici, il y a un frère qui est monté sur une montagne et ensuite, après plusieurs jours, il est descendu de la montagne et il a dit, les anges de Dieu m'ont rencontré, m'ont apparu et il m'a été dit, tu es maintenant l'ange Michaël, descend aux hommes. Et c'est ainsi que des églises ont été divisées et dans le trouble. Et il y en a qui ont bien sûr cru cela parce que ça a été fait de manière tellement pieuse. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu demeure éternellement. Et l'homme le plus intelligent s'égarera s'il se détache de cette parole de Dieu. Le plus prudent, il s'égarera. Le plus prudent s'égarera. Personne ne peut dire, je connais la Bible. Cela ne peut pas m'arriver. Connais Dieu. Et laisse-toi introduire dans ta place, dans la parole de Dieu, la Bible que tu connais. Alors, nous pourrons continuer à parler de ça. Mais une fois des imprétentions, sans incitation de la parole de Dieu. Il y a beaucoup qu'on dit, cela ne pourra pas m'arriver. Et malgré tout, cela leur est arrivé de s'être égaré, de quitter les Écritures. Ce sont les derniers jours. Et beaucoup de choses se passent. Nous devons faire attention à rester avec les Écritures. Restons les yeux fixés sur ce que Dieu, en accord parfait avec sa parole, fait parmi son peuple. Maintenant, par sa grâce, il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Car la parole qui est venue à Jean, tous l'ont entendu, qui était sous l'écoute de l'annonce de la parole de Dieu par la bouche de Jean. Tous ont entendu de sa bouche la parole qui était venue à lui. C'est aussi comme ça que ça a été dans notre temps. Dieu nous a révélé tout son dessein du salut par sa grâce. Et pour cela, nous pouvons nous réjouir et être joyeux, car ceci est le jour que le Seigneur a fait. À lui soit la gloire et la louange, l'honneur et l'adoration. Il aura une église qui sera sans mélange, qui sera dans sa parole, et elle sera parée et préparée. Et par la grâce de Dieu, je peux, toi et moi, nous avons la grâce d'appartenir à cette église. Loué et exalté soit son Saint-Nom. Amen. Levons-nous pour remercier le Seigneur. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Jésus seul. J'ai touché le bord de son vêtement et son sang m'a purifié. Grâce, grâce. Grâce, grâce au lieu du jugement. La grâce plus grande que mes fautes. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Soyons heureux et reconnaissants. Et laissons agir l'esprit et la parole, car ceci est le jour que le Seigneur a fait. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Soyons heureux et reconnaissants. Laissons l'Esprit et la parole de Dieu agir. Car ceci est le jour que le Seigneur a fait. Père céleste, nous te remercions encore une fois pour ce temps de la grâce et pour les paroles de la grâce que tu as adressées à nous aussi ce matin pendant cette heure. Nous ne pouvons rien faire d'autre que louer ton Saint-Nom et t'apporter l'honneur et la gloire, car tu as des paroles de vie éternelle que tu nous as adressées, Seigneur. Et nous te remercions pour les vérités merveilleuses et que nous n'avons pas à tomber dans le piège de la tromperie des hommes, mais nous pouvons rester regarder à ta parole uniquement et à ce que tu as dit et ce que tu as révélé à ton serviteur le prophète. C'est ce que nous acceptons de tout notre cœur. À ton saint nom soit la gloire, l'honneur et l'adoration. Seigneur, je n'ai pas besoin de regarder à tout ce qui est tordu, à tout ce que les gens tordent, car ils ont tordu ta parole aussi dans tes jours et ils le font encore jusqu'à dans nos jours. La même chose avec ce que tu as révélé par ton serviteur le prophète. Cela est tordu dans son sens, mais loué et exalté sois-tu de ce que tu as un peuple qui conserve ta parole en honneur Reçois la louange et fais-nous grâce. Nous te le demandons dans le Saint-Nom de Jésus. Alléluia. Amen.